Chapitre 11. Écrit de Michel-Ange. Lettre. À Julien de Sangallo. Votre lettre m'annonce que le pape a mal vu mon départ et qu'il a maintenant la résolution d'exécuter nos accords précédents pour que je retourne à Rome. C'est vrai, j'avais entendu raconter que le pape, le samedi saint, parlant à table avec son maître des cérémonies et un joaillier, aurait déclaré ne plus consentir un sou de dépense pour pierre ni petite ni grosse. Ce propos me stupéfia. Cependant, avant de me décider au départ, je demandai un peu de ce qui m'était nécessaire pour continuer l'ouvrage. Le pape me répondit « Reviens lundi ». Ce lundi, je revins, et aussi le mardi, le mercredi, le jeudi. Le pape ne l'ignore pas. Enfin, dans la matinée de vendredi, je fus congédié, ou plutôt chassé. Naturellement, je tombai dans une grande tristesse. Néanmoins, cette cruelle mesure envers moi ne détermina pas seule mon départ. Mais ma seconde raison, je ne veux pas l'exprimer ici. Qu'il me suffise de dire que, si j'étais resté à Rome, le premier tombeau que j'eusse dû faire eût été non celui du pape, mais le mien. À présent, c'est de la part du pape que vous m'écrivez. Je compte donc que vous lui lirez ma réponse. Il faut que sa sainteté sache bien que je suis, plus que jamais, disposé à continuer ce tombeau. Seulement, il faut aussi qu'elle ne s'inquiète pas du lieu où j'y travaillerai. Tout ira bien si elle admet que dans 5 ans, ce tombeau sera muré dans Saint-Pierre, à la place qui m'aura plu. Si cette œuvre se fait, il n'y en aura pas de semblable dans le monde. Si le pape désire continuer l'affaire, qu'il envoie les fonds à Florence. Je ferai venir ici les marbres que j'ai commandés à Carrare et ceux que j'ai laissés à Rome. J'enverrai à Rome les parties achevées de mon œuvre au fur et à mesure de leur achèvement, en sorte que sa sainteté prendra plaisir à les voir définitives sans connaître l'ennui de les voir dans leur élaboration. Ici, je travaillerai d'un esprit plus tranquille et d'un meilleur cœur parce que je n'aurai pas à penser à tant de choses matérielles. C'est tout. À Jean Francesco, prêtre de Sainte-Marie des Fleurs, à Florence, et qui se trouvait pour quelques jours à Rome. J'ai la tête vide à propos de cette statue dont on pourrait utiliser les membres si j'en crois un maraîcher établi sur la place et qui est mon ami. Il m'a assuré, en secret, qu'on y ferait un beau pigeonnier. Une autre fantaisie me hante, qui serait bien plus étrange. Mais il faudrait bâtir encore plus grande cette statue. Cela n'est pas impossible, puisqu'on bâtit une tour par morceaux. La tête de cette statue servirait de campanile à Saint-Lorenzo, qui en a grand besoin. Les cloches qu'on fixerait dans la tête feraient par la bouche sortir leur son. Et ne semblerait-il pas alors que ce colosse créerait miséricorde, surtout pendant les jours de fête, quand on sonne à de fréquentes reprises et à grandes volées? Au capitaine de Corton. Florence, mai 1518. Monsieur le capitaine, je me trouvais à Rome la première année du pontificat de Léon X lorsque Maître Luca, peintre de Cortone, s'y rendit. Me rencontrant un jour dans le quartier de Monte Giordano, il m'apprit son intention de parler au pape et d'en obtenir je ne sais plus quoi. Il ajouta qu'il s'était dévoué à la maison des Médicis jusqu'au risque de sa vie, et que, cependant, elle ne semblait plus aujourd'hui le connaître. Il me conta encore d'autres pareilles choses qui ne sont plus dans mon souvenir, et, après tous ces bavardages, il me demanda 40 jules en m'indiquant à quelle adresse je pouvais les lui envoyer, c'est-à-dire à la boutique d'un cordonnier chez lequel, je crois, il s'en retournait. Je fis selon ses désirs. Dans la suite, Maître Luca, n'ayant peut-être pas abouti dans son dessein auprès du pape, se présenta quelques jours après à ma maison du Macello dei Corvi, où j'habite encore maintenant, et il me trouva fort occupé à une statue de marbre en pied, haute de 4 brasses, qui a les mains levées. Il proféra de nouvelles plaintes, finalement me redemanda 40 jules et m'apprit sa résolution de quitter Rome. Je montai à ma chambre et je lui apportai les 40 jules en présence d'une fille de Bologne qui servait alors dans mon atelier et aussi, probablement, du même garçon par qui déjà je lui avais envoyé les premiers jules. Luca, ayant serré cet argent dans sa poche, partit. Je ne l'ai plus revu. Je me rappelle cependant que devant Maître Luca, je m'étais plaint de ma santé chancelante et je sais qu'il me répondit « Les anges, n'en doute pas, viendront du ciel pour soutenir tes bras et pour t'assister dans ton travail. » Je vous mets au courant de tous ces détails pour qu'ils puissent être répétés à Maître Luca et lui marquer d'une façon précise qu'il ne m'a rien rendu malgré ce que vous écrivez vous-même à Buonarroto. Non, il n'est pas vrai qu'il m'ait rendu mon argent. Et je serais un bandit si je cherchais à recevoir une deuxième fois ce que j'ai reçu une première. Votre Seigneurie pensera de tout cela ce qui lui plaira. J'ai à être remboursé intégralement. Je le jure, et je sais que, si votre Seigneurie le veut, j'aurai satisfaction. » Au cardinal Bernardo d'Ovisida, Bibienne. Florence, juin 1520. Je supplie votre Seigneurie révérendissime, non comme ami ou serviteur, je ne mérite de me croire ni l'un ni l'autre, mais quoi comme vil, pauvre et fou, de soutenir Bastiano del Piombo, peintre de Venise, dans son intention de participer, puisque Raphaël vient de mourir, aux travaux du palais. Quand même votre Seigneurie estimerait, ainsi que je l'estime moi-même, que son aide peut devenir inutile, je pense néanmoins qu'à assister les fous, on peut quelquefois éprouver du plaisir. Ainsi se sert de la ciboule à celui qui, fatigué du chapon, désire pourtant varier le goût de sa salade. Les hommes de talent, je le sais, oh certes, ne manquent pas de nos jours, mais je supplie votre Seigneurie de m'accorder à présent une preuve de considération. Et j'assure que Bastiano est un artiste de valeur. Ce n'est pas une raison parce qu'on a pu se tromper sur mon compte que je me trompe sur la valeur de Bastiano. À Giovanni Fatucci. Florence, 1523. Il y aura bientôt 2 ans que je suis revenu de Carrare extraire les marbres pour le tombeau du cardinal, Médicis. Il m'ordonna de prendre la résolution d'agir vite. Je lui envoyai tous mes projets par écrit en lui faisant connaître que je les réaliserais à forfait ou au mois et à la journée selon ses préférences. Or, aucun de mes projets ne fut accepté et l'on me répondit que je ne devais pas avoir l'intention de servir réellement le cardinal. Plus tard, le cardinal me reparla des tombeaux. Je lui offris de présenter mes projets déjà réalisés en bois à la grandeur de l'œuvre définitive, sans oublier aucune des figures qui seront en terre et bourre. Et j'ajoutai que ce modèle coûterait très peu. On ne m'écouta pas. Lorsque le cardinal s'en fut en Lombardie, je courus lui offrir mes services. Il me répondit de chercher les marbres, de recruter les hommes nécessaires à mon ouvrage, enfin d'agir de mon mieux pour qu'il pût, sans que j'eusse à lui en demander davantage, trouver mon entreprise assez avancée. Il me dit encore que, s'il vivait, il ferait la façade du dôme de Florence et qu'il autoriserait Dominique Bonenseghi à me verser l'argent utile. Dès le départ du cardinal, j'informai de mes résolutions Dominique Bonenseghi en me déclarant prêt à me mettre au travail. J'écrivis devant témoin afin que l'on sût bien que je n'avais pas d'autres engagements à prendre. Dominique vint aussitôt me dire qu'il n'avait reçu aucune instruction et que, si je ne voulais rien, il le manderait au cardinal. Je répondis que je ne voulais rien. Puis, au retour du cardinal, Giovanni me confia que le cardinal lui avait demandé de mes nouvelles. J'allai tout de suite chez le cardinal qui, sans doute, désirait me parler des tombeaux. Le cardinal me dit « Nous souhaitons que ces tombeaux présentent quelque chose de bon, c'est-à-dire quelque chose de ta main. » Il n'ajouta pourtant pas que j'étais chargé expressément de cet ouvrage. Après lui avoir déclaré que je lui en reparlerais quand les marbres me seraient parvenus, je partis. Maintenant, vous savez de quelle manière le pape, à Rome, a été renseigné à propos du tombeau de Jules. Vous savez que par un motu proprio, il a été procédé contre moi à qui l'on demande ce que j'avais fait de cette œuvre et quel denier j'avais reçu. Vous savez que le pape ajouta « Que Michel-Ange entreprenne donc les tombeaux des Médicis s'il ne veut pas faire celui de Jules II. » Vous voyez donc que je dois, par ordre, m'engager dans cette œuvre si je ne veux m'exposer à mal. Et si, à présent, le cardinal de Médicis veut que je m'attache au tombeau de San Lorenzo, vous comprenez que je ne le puis pas, à moins qu'il ne me libère de tous soucis à Rome. S'il me libère, je prends l'engagement de travailler pour lui toute ma vie durant, sans espérer aucune récompense. Ce n'est pas que je cherche à me débarrasser du tombeau de Jules, car je le ferai volontiers, mais il faut d'abord que je serve Médicis. Si, enfin, celui-ci désire que je mette la main, aussi peu que ce soit, au tombeau de Florence, je tâcherai de réaliser quelque chose qui lui plaise pendant que je travaillerai au mausolée de Jules. Au pape Clément VII. Florence, 1524. Très saint père, je prends la hardiesse de m'adresser, sans intermédiaire pour n'être point trahi, à votre sainteté au sujet des tombeaux de Saint-Laurent. Je ne sais vraiment ce qu'il y a de mieux, ou le mal qui profite, ou le bien qui nuit. Quoique fou et méchant, j'ai la certitude que, si l'on m'avait écouté à la fin des travaux comme au début, tous les marbres nécessaires se trouveraient aujourd'hui à Florence et ébauchés d'après le modèle, et que tout cela aurait exigé beaucoup moins de dépenses. À présent, je m'aperçois que cette affaire languit. Aussi, je présente toutes ces explications à votre sainteté, afin qu'elle m'excuse si l'entreprise ne répond pas à ses désirs. Si, au lieu de ne me laisser aucune initiative dans la détermination de mes travaux et dans la direction des hommes que j'y emploie, on me donne toute autorité, on verra quel résultat satisfaisant j'obtiendrai. Stefano di Tommaso a définitivement installé sur le faîte de la chapelle de Saint-Laurent la lanterne aujourd'hui découverte. Elle plaît généralement à tout le monde. Elle plaira aussi, je le pense, à votre sainteté. On est en train de faire la boule qui doit la surmonter d'une brasse environ. Pour la distinguer des autres, j'ai cru ingénieux de la faire faire à facettes. Un cer Giovan Francesco Fatucci. Florence, janvier 1524. Vous me demandez par lettre où j'en suis de mes affaires avec le pape Jules. Je vous affirme que, si je pouvais demander des dommages-intérêts, j'aimerais mieux avoir à retenir qu'à donner. Quand Jules II me fit quérir à Florence, la seconde année de son pontificat, si je ne me trompe, je m'étais occupé déjà de la moitié de la salle du conseil de Florence. J'avais fait de la peinture pour la somme de 3 000 ducats. Le carton était déjà composé et tout Florence peut en témoigner. Je croyais donc avoir suffisamment gagné mon salaire. Des 12 apôtres que j'avais encore à faire pour Sainte-Marie-des-Fleurs, un seul était ébauché, tel d'ailleurs qu'on le voit encore. Et pour le tombeau du pape, j'avais amené de Carrare la plus grande partie des marbres. Quand le pape Jules II m'eut enlevé à ce travail, je n'eus plus rien, ni ce projet, ni l'autre. Puis, pendant mon séjour à Rome, Jules me commanda son tombeau où devaient entrer 1 000 ducats de marbre, et il me les fit payer en même temps qu'il m'envoyait à Carrare. Je passai là-bas 8 mois à faire des ébauches, après quoi j'amenai la plus grande partie des marbres sur la place Saint-Pierre. L'autre partie resta à Ripa. Quand j'eus payé les bateleurs porteurs de ces marbres, je meublai, avec l'argent qui me restait en poche, la maison que je possédais sur la place Saint-Pierre, et certes, espérant beaucoup dans le gain de ce tombeau, je fis venir des marbriers de Florence pour travailler avec moi. Et ceci, je les payai avec mon argent. Voilà que le pape Jules, changeant d'avis, ne voulut plus de son tombeau. Seulement, j'ignorais, moi, sa résolution nouvelle. Et comme j'allais lui demander de l'argent, on me mit à la porte. L'outrage était violent. Je quittai Rome sur l'heure. Et la chose alla très mal pour tout le monde, puisque mes marbres demeurèrent sur la place Saint-Pierre jusqu'à la création du pape Léon X. En outre, la première fois que le pape Jules alla à Bologne, je fus obligé de m'y rendre la corde au cou pour lui demander pardon. Alors, il me donna sa statue de bronze à faire, haute d'environ 7 brasses. Comme je lui objectais que ce n'était pas mon métier de fondre une statue, il me répondit « Travaille, tu arriveras à d'excellents résultats, et je te récompenserai si bien que tu seras très content. » Quand la statue fut placée sur la façade de San Petienio, je m'en revins à Rome. Alors le pape, au lieu de me parler de la sépulture, me parla de la voûte de Six et de peintures à y faire. Nous passâmes contrat pour 3 000 ducats. Les premiers dessins de cet ouvrage furent les 12 apôtres à disposer dans les lunettes, le reste de l'espace devant être occupé par des ornements. J'entrepris ce travail à mon gré. Mais je ne pus rien obtenir de l'argent promis. Or, un jour, devant Messer Bernardo Bibbieno et Atalente, je me plaignais de n'avoir pas de quoi vivre à Rome et je disais qu'il ne me restait plus qu'à aller chez le bon Dieu. Messer Bernardo, se tournant vers Atalente, le pria de lui rappeler prochainement cette affaire, car il était bien décidé à obtenir pour moi de l'argent. En effet, Bernardo me fit payer 2000 ducats pour la chambre apostolique. Comme mes deux camarades avaient réussi à me faire donner satisfaction, du moins en partie, j'offris à Bernardo 100 ducats et à Atalente 50. Le pape Jules mourut. Au commencement du règne du pape Léon, le cardinal d'Agen, Léonard de la Rovère, neveu de Jules II, désireux d'agrandir le tombeau, ou plutôt de développer l'œuvre que j'avais présentée sur dessin, on dressa un contrat nouveau. Là, comme je refusais de reconnaître au compte du tombeau les 3000 ducats que j'avais reçus, et comme je fournissais la preuve que j'avais à en recevoir bien davantage, le cardinal d'Agen me traita de bandit. À Messer Pietro Aretino. Rome, septembre 1537. Magnifique Messer Pietro, mon seigneur et frère. En lisant votre lettre, j'ai eu à la fois du plaisir et de l'ennui. Je me félicite beaucoup de ma fortune d'aller vous voir, parce que votre talent est unique au monde. D'autre part, je regrette bien, après avoir parcouru en grande partie votre histoire, de ne pouvoir la reproduire dans mon œuvre. Votre imagination est si vive que vous ne sauriez mieux, avec des mots, décrire le jugement dernier. Et l'on dirait, d'après votre composition, que ce jour était déjà arrivé et que vos yeux l'ont vu. En ce qui concerne nos relations, je vous remercie de la peine que vous mettez à me répondre, mais je vous prie de continuer à m'écrire encore, vous, dont les rois et les empereurs sont fiers que votre plume les nomme. Pourtant, si vous ne projetez de venir à Rome que pour y voir ma peinture, je vous supplie de renoncer à ce projet qui serait excessif. Je me recommande à vous. À Messer Louis du Gelriccio. J'ai envoyé ce madrigal à Florence. Le voici recomposé plus convenablement. Et si tel est votre plaisir, jetez-le au feu qui me brûle. Je désire encore de vous que vous me tiriez d'une inquiétude où cette nuit m'a laissé. Je rêvais que je saluais notre idole et elle menaçait en riant. Ne sachant à quoi m'en tenir, je vous prie de vous entretenir avec elle et vous me direz dimanche l'interprétation qu'elle donne de mon rêve. À Monseigneur Marco Vigerio, évêque de Sinigaglia. Votre Seigneurie m'ordonne de peindre et me prie de n'avoir aucun souci. Je réponds qu'on peint avec le cerveau, non avec les mains, et que l'artiste, qui ne dispose pas tranquillement de son cerveau, s'expose à faire une œuvre blâmable. Tant que notre affaire ne s'arrangera pas, je ne ferai rien de bon. Qu'on regarde ce que j'ai fait pour le pape Jules, à Bologne, à Florence, à Rome, en bronze, en marbre et en peinture, et que l'on mesure un peu ce qui m'est dû selon mes mérites. Il me reste à recevoir 5000 écus des héritiers du pape Jules. J'ajoute que le pape Jules, m'ayant si mal récompensé de tant de travail et de fatigue, je mourrais de faim aujourd'hui si je ne comptais pas sur la générosité du pape Paul. Au racontard de ses ambassadeurs, Jules m'aurait fait riche et moi j'aurais volé l'autel. Ils font de tout cela beaucoup de bruit et je saurais bien les obliger à se taire. Mais à quoi bon ? J'aurais dû envoyer au bon Dieu ce tombeau de Jules, car le pape Clément n'en avait plus souci et le vieux duc voyait avec ennui que je servisse le pape Paul. Je compris pourquoi le duc avait fait figurer la maison dans le contrat, c'était pour m'en chasser et y danser en maître. Je me trouve avoir ainsi perdu ma jeunesse, attachée à ce tombeau que ne m'ont pas permis de continuer Léon ni Clément. Et ma naïveté excessive a causé ma ruine. J'en vois beaucoup qui, avec 2 ou 3 000 écus d'appointement, se reposent bien tranquilles dans leur lit. Moi, tout en m'éreintant, je deviens pauvre. on a prétendu que j'aurais prêté à usure l'argent du pape Jules et que, dans ce tripotage, je me serais fait riche. Comme si le pape Jules m'avait précédemment versé 8000 ducats. Quand on parle de l'argent que j'ai reçu pour ce tombeau, veut-on comprendre les dépenses que j'ai dû faire pour ce travail? J'écris ici la vérité. Devant les hommes, je ne dis pas devant Dieu, je me proclame un homme de bien, n'ayant jamais trompé qui que ce soit. Mais, comme vous le voyez, je deviens fou quelquefois à force de me défendre contre les méchants. Enfin, ce que je vous affirme ici est la vérité, et je suis non un voleur, un usurier, mais un citoyen de Florence, noble, fils d'homme de bien, et non pas issu des Cagli. Pourtant, si je dois vous continuer l'histoire de ce tombeau du pape Jules, j'ajoute que lorsque celui-ci changea d'idée, je ne pus obtenir de lui les 150 ou 200 ducats nécessaires pour payer les bateliers qui, rapportant sur leur barque mes marbres commandés à Carrare, venaient d'aborder à Ripa. Balthazar Balducci, banquier de Messer Jacopo Gallo, me prêta cet argent. Je voulus contraindre le pape à donner suite à cette heure et, un matin, je m'en fus le trouver. Or, il me fit congédier par un palefrenier. Un évêque de Luc, témoin de mon humiliation, dit à ce palefrenier « Vous ne connaissez donc pas cet homme ?»« Pardonnez-moi, gentilhomme, me dit le palefrenier, j'ai l'ordre d'agir ainsi. » Je m'en retournai chez moi et j'écrivis au pape ce billet. « Saint-Père, j'ai été ce matin chassé du palais par ordre de votre sainteté. En conséquence, je vous informe que désormais, si vous voulez de ma personne, vous aurez à la chercher ailleurs qu'à Rome. » Cette lettre envoyée, j'appelai Cosine, un menuisier, et puis un marbrier, et je leur dis « Allez me prendre un juif, vendez-lui tout ce qui est dans cette maison et rejoignez-moi à Florence. » Je montai en poste aussitôt. Le pape, qui avait reçu ma lettre, avait lancé à mes trousses 5 cavaliers qui me rattrapèrent à Poggibonsi vers la 3e heure de la nuit. Ils me présentèrent une missive du pape ainsi conçue. Aussitôt lue la présente, tu dois revenir à Rome sous peine d'encourir ma disgrâce. Je répondis au pape que toutes les fois qu'il me rappellerait mes engagements, j'irai vers lui, mais qu'en dehors d'eux, je ne lui obéirai jamais. Mais, à Florence, la signoria craignit que, par mes rébellions contre le pape, une guerre ne fût provoquée. Alors je revins à Rome. Tous les marbres que j'avais rassemblés sur la place de Saint-Pierre y étaient saccagés et, de préférence, les petits morceaux. De sorte que j'affirme que j'ai subi en tout 5000 ducats de dommages dont les héritiers du pape Jules sont responsables. Et, après m'avoir volé ma jeunesse, mon honneur et mon bien, on m'appelle voleur. Et l'ambassadeur d'Urbain me fait dire de corriger d'abord ma conscience et que la rectification du duc viendra ensuite. Voyez-vous, la raison de toutes les querelles qui troublèrent mes relations avec le pape Jules fut la jalousie que Bramante et Raphaël d'Urbain exercèrent contre moi. Ils voulaient me ruiner. Et avaient-ils raison de le faire, ce Raphaël qui, de tout ce qu'il savait en art, ne le savait que par moi? À Luigi del Riccio. Rome, 1542. Messer Pier Giovanni me presse ardemment de commencer ma peinture. Cela ne sera pas possible avant 4 ou 5 jours, parce que l'enduit n'est pas assez sec. Mais il y a quelque chose qui me procure beaucoup plus d'ennui, c'est de ne point recevoir, malgré les plus formelles promesses, la rectification de mes comptes. Je me suis arraché du fonds de lettres 1400 écus, qui m'aurait suffi pendant 7 ans à travailler, à construire 2 tombeaux plutôt qu'un. Et alors, je serais resté en excellents termes avec le pape. À présent, je me trouve sans argent, mais avec plus de soucis que jamais. Ce que j'ai fait pour obtenir mon salaire, je l'ai fait avec l'adhésion du duc de Florence et appuyé sur le contrat de la commande. Et voilà que j'ai déboursé mon argent et que la rectification promise ne m'arrive pas. Est-ce que je ne mérite pas quelques égards pour la foi d'artiste que j'ai, pendant 36 ans, manifestée dans mon travail et pour le dévouement que j'ai témoigné envers les autres? La peinture, la sculpture ont causé ma ruine. Tout va de mal en pis. Il eût mieux valu que, dès ma première jeunesse, je me fusse livré à fabriquer des allumettes. je ne serai pas aujourd'hui en de pareils tracas. Je vous dis ces choses à vous parce que vous me voulez du bien et qu'ayant mené cette affaire, vous connaissez toute la vérité de mes affirmations et que vous pouvez l'exposer avec intelligence au pape. Il faut qu'il sache que je ne peux pas plus vivre que peindre. Non, je ne veux plus être chaque jour accusé de fourberie par ceux-là même qui m'ont pris la vie et l'honneur. Au même. Rome, 1546. Vous croyez sans doute que je vais répondre selon votre désir, c'est tout le contraire. Vous ne péchez, je le crois, que par ignorance, en m'envoyant ce que, par Hercule, vous auriez eu honte de me donner vous-même. Je vous prie, je vous conjure, par la bonne amitié qui nous lie, de me permettre de vous dire que ce n'est pas bien du tout d'avoir, par négligence, gâté mon estampe et brûlé les autres. Si vous tenez boutique avec mes œuvres, ne les confondez pas avec les œuvres d'autres personnes. Si vous faites de moi 1000 morceaux, j'en ferai tout autant, non de votre personne, mais de vos choses. Michel-Ange signe, et sous sa signature, il ajoute « Qui n'est ni peintre, ni sculpteur, ni architecte, qui est tout ce que vous voudrez, excepté un ivrogne, ainsi que je vous l'ai déjà dit à la maison. » À Messer Giorgio Vasari, ami et peintre excellent. Je ne vous ai pas répondu tout de suite pour ne pas emprunter quelque apparence de mercantilisme. De toutes les louanges que vous me décernez, je voudrais n'en mériter qu'une seule, celle d'avoir fait quelque chose qui ait pu vous satisfaire. Je vous dois beaucoup plus que je ne peux payer, car je suis vieux et désormais je ne peux attendre de cette vie moins que de l'autre, où je régulariserai mes comptes. Soyez donc patient envers moi. Quant à votre œuvre, le tombeau de San Pietro in Montorio, n'ayez aucune inquiétude. Je suis allé voir Bartolomeo Amanati et il me semble que tout va aussi bien que possible. Il travaille avec acharnement. Vous savez d'ailleurs qu'il est un brave jeune homme et si sympathique qu'on pourrait l'appeler l'ange Bartolomeo. A Benvenuto Cellini. Rome, 1552. Je vous ai considéré, il y a bien longtemps, comme le meilleur orfèvre qui ait jamais existé. Aujourd'hui, je vous estime comme un sculpteur aussi remarquable. Je dois vous annoncer que Messer Bindo Altoviti m'a amené voir un portrait de sa personne, fait en bronze, et il m'a appris que ce portrait était de votre main. J'ai ressenti de cela une joie véritable. Mais j'avoue mon vif regret que cette œuvre soit exposée sous un jour défavorable. Si elle était plus convenablement éclairée, on verrait tout de suite quelle chose très belle vous avez faite. À Giorgio Vasari, mai 1555. C'est par la contrainte que je me suis mise à la fabrique de San Pietro. Je me suis donné là pendant 8 ans, non seulement sans bénéfice, mais à mon plus grand dommage. À présent que l'affaire marche bien et qu'on a de l'argent à verser sur les artistes et les ouvriers, au moment où je fais en toute hâte la coupole, je ne puis quitter la fabrique. Si je m'en allais, ce serait tout cet ouvrage compromis. À la face de la chrétienté, je serais accablé de la plus grande honte et sur mon âme pèserait le plus noir péché. Ainsi donc, mon cher Messer Giorgio, je vous demande la grâce de remercier le duc pour ses brillantes propositions que par vous il m'offre et de m'accorder la permission de continuer ici mon œuvre de telle sorte que j'en puisse sortir avec honneur, profit et sans péché. À Messer Benedetto Varchi. Rome, 1546. J'ai parfaitement reçu votre petit livre et quelle que soit mon incompétence, je vous répondrai quelques mots selon votre désir. Je déclare que la peinture peut être considérée d'autant meilleure qu'elle accentue davantage le relief et le relief d'autant plus mauvais qu'il accentue davantage la peinture. Il me semblait cependant que la sculpture pût servir de flambeau à la peinture et qu'entre l'une et l'autre, il y avait la différence qui existe entre le soleil et la lune. Mais que dois-je penser après avoir lu votre livre où vous prétendez qu'au moins sur le terrain philosophique, les choses qui ont un même commencement et une même fin sont une même chose? S'il en était ainsi, chaque peintre ne devrait pas moins sculpter que peindre, et chaque sculpteur ne devrait pas moins peindre que sculpter. J'entends par sculpture ce qui se fait en relief, par peinture ce qui se fait en surface. Donc, il suffit que la sculpture et la peinture soient toutes les deux produites par la même intelligence pour qu'il soit possible d'établir entre elles une harmonie. Celui qui a écrit que la peinture est plus noble que la sculpture aurait mieux fait, à mon avis, de charger sa servante d'établir là-dessus un raisonnement. Sur un tel sujet, il y aurait à énumérer un tas de considérations qu'on n'a pas encore mises au jour. Aujourd'hui, cela me demanderait trop de temps. Et moi, je n'en ai plus assez pour mes ouvrages, puisque je suis non seulement un vieillard, mais presque au nombre des morts. À Messer Giorgio Vasari. Vous pensez probablement que je ne suis qu'un vieux fou de rimer encore des sonnets. C'est que je ne veux pas donner raison à ceux qui prétendent que je tombe en enfance. Je vois, à lire votre lettre, l'affection que vous me portez. Ayez pour certain qu'il me serait doux de reposer mes pauvres os auprès de ceux de mon père. Mais si je partais d'ici, je causerais certainement la ruine de la fabrique de San Pietro. Ce serait une grande honte et aussi un grand péché. Quand toute la composition sera arrêtée, de telle sorte qu'on ne puisse y apporter aucune modification, j'espère faire ce que vous me conseillez. En attendant, il n'est pas inutile de tenir en échec quelques gloutons qui sont impatients que je m'en aille vite. À Messer Bartolomeo Ammanate. On ne peut considérer que Bramante ne fut, en architecture, aussi bien doué que le meilleur depuis les anciens. Il a le premier tracé le plan de Saint-Pierre, un plan net et précis, plein de lumière, construit dans un isolement tel que rien ne peut nuire à aucune de ses lignes. Alors, celui qui, comme Sangallo, s'est affranchi de l'ordonnance établie par Bramante, s'est écarté de la vérité. Sangallo, en arrondissant la construction, enlève d'abord toute la lumière au plan de Bramante. En haut et en bas, il laisse dans l'obscurité tant de coins et recoins que ceux-ci favoriseront contre ce palais les rendez-vous des ribauds. On dirait qu'il a voulu travailler principalement pour les bandits, les faux monnayeurs, les nonnes enceintes et un tas de coquins. Le soir, quand on fermera l'église, il faudra bien charger 25 hommes de fouiller si quelqu'un ne se cache pas dans un de ces recoins. Autre inconvénient, si l'on circonscrit à l'extérieur, comme y engage Sangallo avec son plan supplémentaire, le plan de Bramante, il faudra logiquement jeter à terre la chapelle Pauline, les chambres du Piombo, la Ruota et beaucoup d'autres bâtisses vaticanes, sans compter, je le crains, la chapelle Sixtine. À ne pas utiliser le plan de Sangallo, la fabrique de Saint-Pierre économiserait 200 000 écus et 300 ans de durée. Tel est mon sentiment, exprimé sans passion. Si vous parvenez à convaincre le pape de mes raisons, vous me ferez plaisir. Si ce plan est utilisé, il s'ensuivra, en outre, que tout ce qui aura été exécuté de mon temps tombera par terre, et ce sera très grand dommage. À son frère Buonarroto. Rome, septembre 1512. Ta lettre m'apprend que notre pays a été en grand danger, et j'en ai ressenti un vif chagrin. Il paraît que les Médicis sont de nouveau entrés à Florence et que la paix est faite. Je crois donc que le plus grand péril, celui qui nous venait des Espagnols, a disparu et j'estime qu'il n'y a plus aucune nécessité de quitter le pays. Tenez-vous-y donc tranquille. Tâchez de n'y avoir que des amis et de ne vous y rendre les familiers de personne, sinon de Dieu. Ne parlez de qui que ce soit ni en bien ni en mal, parce qu'on ne sait jamais où aboutira une parole. Ne vous occupez que de vous-même. Pour les 40 ducats que mon père a touchés l'autre jour à Sainte-Marie-Nouvelle, je n'ai qu'à vous répéter qu'en cas de péril, vous pouvez dépenser non seulement ces 40 ducats, mais tout ce que vous aurez de moi en votre possession. Hors ce cas de nécessité, je ne vous autorise nullement à prélever le moindre argent sur mon bien. Je vous informe que moi, je n'ai pas un grosso, que je suis sans chaussures et presque nu, et que je ne peux pas être payé ici si je ne termine pas mon ouvrage. Je souffre, croyez-le, les plus douloureuses privations et les plus lourdes fatigues. Ne vous inquiétez donc pas, vous autres, à cause de quelques légers désagréments. Tant que vos deniers suffiront à votre subsistance, ne touchez pas aux miens. Mais pourtant, s'il vous arrive d'éprouver des peines réelles, Des besoins pressants d'argent, vous n'avez qu'à m'en donner avis tout de suite, s'il vous plaît. » À son neveu, Leonardo, fils de Buonarroto. Voici bientôt un an que le hasard m'a fait tomber sur un manuscrit de chronique florentine où j'ai vu qu'il y a 200 ans, si j'ai bonne mémoire, vivait un certain Buonarroto Simone, à plusieurs reprises membre de la Signoria, puis un certain Simone Buonarroti, puis un Michel de Buonarroto Simone, enfin un Francesco Buonarroti. Je n'y ai pas rencontré de Léonard, qui fut de la Signoria, père de Ludovic, notre père. C'est que ce Léonard ne tenait pas tant de cette branche. Il me semble que tu dois signer Léonard de Buonarroto, Buonarroti Simoni. Quant à une maison, je te répète qu'il faut en acheter une convenable de 1500 à 2000 écus et dans mon quartier de Sainte-Croix si c'est possible. Une maison cossue en ville fait grand honneur. On la voit mieux qu'on ne voit des propriétés de campagne. Et puis, nous sommes des gens de la ville, descendus de familles nobles. J'ai toujours essayé de ressusciter notre maison, mais aucun de mes frères n'a pu m'assister. Essayez donc, à votre tour, vous autres, que Gismondo revienne habiter dans Florence, afin qu'on ne dise plus, à ma grande confusion, qu'un de mes frères vit à Settignano, au derrière des vaches. Au même. Ma rétention d'urine m'inflige de cruelles souffrances. Je n'ai ni sommeil la nuit, ni repos le jour. Si j'en crois le diagnostic des médecins, ce serait la pierre. Malgré l'espoir qu'on me donne, je ne le reçois guère, tant je suis âgé et tant je souffre. On m'engage à partir pour les eaux de Viterbe, mais il ne me sera possible de me mettre en route que pendant le mois de mai. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Recommande à ta sœur Francesca de prier pour moi. Si elle connaissait mon état, elle ne se croirait pas seule dans le malheur. Pour le reste, mon corps est encore ce qu'il était à 30 ans. Ce mal est survenu pour me ruiner beaucoup et me faire bien peu estimer la vie. Si je ne vais pas mieux, je t'en informerai, parce que je désire mettre en ordre les choses de l'âme et celles du corps. Si c'est la pierre, les médecins me disent qu'elle est à sa formation et qu'elle est petite. Si tu apprends qu'une famille noble se trouve dans une misère profonde, et je crois qu'il y en a, fais-moi savoir son nom. Je puis t'envoyer jusqu'à 50 écus que tu l'offrirais de ma part, et cet acte de charité soulagerait mon âme. Cet argent ne diminuera guère celui que j'ai prescrit de vous laisser. Au même. Rome, 21 août 1563. Je vois, d'après ta lettre, que tu ajoutes créance à une poignée d'envieux et de méchants qui, ne pouvant me supprimer, t'écrivent des mensonges. C'est une bande de gloutons. Repousse donc ces gens-là loin de toi, ces noceurs, ces jaloux, ces fomenteurs de scandales. Tu me parles de gouvernement tyrannique. Eh bien, non! Je ne peux pas avoir de gouvernement meilleur, ni être en toute chose plus fidèlement traité. Quant à être volé, non encore. J'ai à la maison un personnel de confiance qui me donne toute satisfaction. Occupe-toi de tes affaires, laisse-moi conduire à ma guise les miennes. Porte-toi bien. À Vittoria Colonna, marquise de Pescara. Rome, 1545. Avant d'accueillir ce que votre Seigneurie a bien voulu m'offrir plusieurs fois, je désirais, afin d'être moins indigne de votre générosité, faire quelque chose de ma main. Mais, ayant considéré qu'on ne peut acheter la grâce de Dieu et que l'affaire à tendre, c'est commettre un péché, je vous avoue ma faute et j'accepte donc très volontiers votre offrande. Quand je l'aurai, il me semblera que je suis au paradis et que je me trouverai un peu non dans ma maison, mais dans la vôtre. Le porteur de ce mot est Urbain, qui vit chez moi. Votre Seigneurie voudra bien lui indiquer le jour de la fête à laquelle elle m'a promis de me convier. À la même. Puisque je suis à Rome, il me semble que je ne dois pas laisser le crucifix à Messer Thomas, ni qu'il doit partager avec moi le privilège de vous servir. Je souhaiterais de faire pour vous plus que toute autre personne au monde. Mes occupations, si absorbantes depuis trop longtemps, ne m'ont pas permis de vous exposer ces raisons. sachant que vous n'ignorez pas que l'amour ne veut pas de maître et que celui qui aime n'endort pas, j'avais moins encore les moyens de m'excuser de mon silence. Malgré les apparences, je me souvenais de mes promesses, je m'occupais de ce dont je ne parlais pas pour me présenter plus agréablement à vous avec une chose moins attendue. Hélas, mon dessein est gâté. Malfat qui tantôt fait, si tantôt oublie. Le serviteur de votre seigneurie. À son neveu Leonardo. Rome, 2 mai 1548. J'ai reçu la corbeille de poire. Il y en avait 86. J'en ai envoyé 34 au pape, qui les a trouvées belles et très bonnes. Quant à la corbeille de fromage, un douanier m'apprend que le voiturier est un fourbe qui n'a pas déposé cette corbeille en douane. Si je peux découvrir où il demeure dans Rome, je le traiterai selon son mérite, non à cause des fromages, mais parce que j'apprendrai à ce malfaiteur la manière de se conduire bien envers les hommes. J'ai été souffrant ces jours derniers. La rétention d'urine m'a beaucoup éprouvé. À présent, je vais mieux. Je t'en informe afin qu'un bavard ne vienne te raconter des histoires. Engage le prêtre à ne plus m'écrire avec cette adresse, Michel Agnolo, sculpteur. Je ne suis connu ici que sous le nom de Michel-Ange Buonarroti. Et d'ailleurs, si un citoyen de Florence a l'intention de faire peindre une table d'hôtel, il vaut mieux qu'il s'adresse à un peintre. Moi, je n'ai jamais été ni peintre ni sculpteur à la façon de tant de gens qui tiennent boutique. Je m'en suis toujours gardé par honneur pour mon père et pour mes frères, et pourtant j'ai servi trois papes. À la vérité, j'y ai été toujours contraint.